Radio Campus 88.3. Fait chier.
Les Radio Campus sont aux Assises internationales du journalisme de Tours du 28 au 30 mars 2023.
Rendez-vous pour deux grandes émissions spéciales
autour des enjeux de l'éducation aux médias
et autour des dérives de l'info putassière et sensationnaliste.
Avec les Radio Campus de Tours,
Angers,
Orléans,
Caen,
Poitiers,
Rennes,
Toulouse,
Paris
et Brest.
Info putassière et infotainment quand l'info est de mauvais goût.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce plateau organisé par Campus France depuis les Assises du journalisme à Tours. Dans cette émission, on va aborder l'influence du modèle économique des médias sur le traitement de l'information. Quelles sont les contraintes économiques inhérentes au fonctionnement des médias? Où placer le curseur de la déontologie entre informer et vendre? Avec nous pour en discuter, Pierre Gans, bonsoir. Bonjour, ce qui est le réflexe de dire bonsoir. Bonjour, vous êtes secrétaire au conseil de déontologie journalistique et médiation. Avec nous aussi Olivier Collet, journaliste à 37 degrés et Info Tour. Cécile Sourd, directrice générale de Mediapart.
Bonjour.
Bonjour. Et Jean-Marie Charon, sociologue et ingénieur d'études au CNRS, qui a bientôt un micro. Promis, on vous donnera un micro. Mais bonjour, je vous dis bonjour malgré tout.
Bonjour.
Merci. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Mais avant tout ce joyeux programme, on va commencer avec le billet de Colin de Radio Pulsar. Salut Colin.
Salut.
Alors aujourd'hui, sucré, salé, amer, comment est l'actu d'aujourd'hui?
Justement, c'est la question que je me suis posée. J'ai voulu goûter l'actu hier soir devant mon PC à 23h, floqué Radio Pulsar. Bonjour Poitiers, ici Tours qui vous parle. J'ai commencé par me pencher sur ce titre du journal Le Parisien, Julia Vignali, nouvelle papesse du rangement, qui nous dit, je cite, « Je ne dis pas que les gens qui ne rangent pas sont cons ». Fin de citation. Je me suis dit qu'heureusement, non, parce que sinon ça ferait beaucoup de cons. Dans ce papier, je me suis intéressé surtout au fait qu'on la considère comme la papesse mondiale du rangement. La papesse. C'est pas possible dans ce monde où on n'aime pas trop les femmes. Non, on préfère les enfants. En lisant l'article, on voit que, en fait, récemment, la japonaise Marie Kondo, qui était considérée comme maîtresse en l'affaire de rangement, a lâché un peu de lest depuis son troisième enfant. Elle en fait un peu moins de rangement. Elle, c'est bien une papesse, ouais, parce qu'elle a préféré les enfants. Julia Vignali a dit qu'elle avait vu comme ça comme un appel du ciel, en se disant que c'était comme si Marie Kondo lui avait passé la main. Je sais pas si c'est vraiment prendre ça comme une passation ou un cadeau empoisonné. Non, parce qu'il y a du boulot. Quand je vois que ma sœur se donne bonne conscience avec une étagère à bazar, c'est pas une papesse du rangement qu'on a besoin, mais un Dalai Lama à ce niveau-là. Je ne trouve pas que cette actu a un goût très prononcé. Elle a un goût plutôt... Si vous savez, un goût d'eau, un goût de cristalline, par exemple.
Tu joues sur les mots, là, Colin. T'aurais une actu avec un quelque chose de concret, un vrai goût.
Bon, d'accord. Si vous voulez une actu qui a un vrai goût, c'est dans le journal du dimanche que je l'ai trouvé. On peut lire un article qui parle du projet de loi Jeux Olympiques. Non pas un projet nous obligeant à acheter des places à 5000 balles en bord de Seine ou gratuites avec les poubelles sur le trottoir de rue plus loin. Non, c'est un projet de loi qui vise à renforcer la sécurité pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, notamment avec des caméras de vidéosurveillance intelligentes qui seraient capables de détecter des mouvements de foule ou des comportements suspects afin d'alerter au plus vite les forces de l'ordre. Des caméras intelligentes, donc, c'est marrant. Parce que quand même, comme si on estimait que nos policiers ne le sont pas assez. Ils chargeraient peut-être dans le tas avec des tirs de LBD à bout portant ou des coups de lacrymo sur des femmes et enfants. Non mais faut pas se fourvoyer, ils sont braves nos copains. Et en fait le JDD il se demande si cette protection elle est légitime ou si ce serait une dérive liberticide. Et justement, dans un monde où on fait beaucoup le parallèle avec George Orwell, 1984, de plus en plus souvent cette parallèle est faite et cette actu, bah, je la trouve très amère. Mais bref. Pour un petit dernier point sur l'actu, j'ai vu dans l'Obs un article titré « Au service des hyper-riches, leurs désirs sont des ordres ». Ça nous dresse le tableau de 6 personnes qui travaillaient pour des grandes fortunes. Et en fait, on peut comprendre dans l'article que des personnes ont fait le choix de travailler pour des grandes fortunes. En gros, elles ont décidé de côtoyer l'argent et l'opulence sans pour autant toucher des doigts. Un travail fatigant, mais qui pourtant plaît à des personnes qui sont considérées souvent comme des majordomes, ou alors qu'on appelle aussi des hommes ou femmes de maison, ou alors chez les gauchos, les pauvres, des hommes ou femmes au foyer. On apprend qu'en fait, c'est des personnes qui gèrent tout pour nos grandes fortunes. En lisant ça, je me suis rendu compte que j'ai fait ça. dans mon expérience professionnelle, j'ai fait ça. J'ai travaillé en EHPAD pendant 6 mois où j'ai servi des personnes qui m'insultaient pour que je leur donne à manger ou que je nettoie leur chambre pour que je fasse tout ce qu'elles veulent. Bon, j'avoue, moi, c'était un peu avide d'argent et plus particulièrement par attirance de l'héritage que je n'ai jamais eu, malheureusement. Bon, pour conclure sur ce papier, le point le plus important que je vois, c'est vraiment que Mademoiselle Annette sirote un élixir du bonheur, une boisson à base de roses et d'amandes, ce qui m'a donné un goût sucré et une envie de boire le bonheur. Et si vous aussi, vous voulez retrouver le goût de l'info, je vous conseille de lire entre les lignes, de vous pencher sur votre actu, celle qui vous marque, qui vous interpelle ou qui vous choque ou vous divertit. Et si vous avez perdu récemment ce goût de l'info, faites un test PCR, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un nouveau variant XBZ247x2.
Merci Colin pour ce billet. Tu nous parles d'info, et ben on va en parler pendant une heure. Parce que dans un premier temps, on va dresser un bilan économique du modèle économique des médias avec Lou de Radio U. Salut Lou. Alors on n'a qu'un micro pour deux, donc je te le donne, tiens.
Salut. Alors, la publicité, les aides de l'État, les annonceurs, les abonnements, les modèles économiques qui sont nombreux. Qu'est-ce qui, dans vos médias respectifs, Olivier Collet et Cécile Sourd, a été privilégié?
Alors nous, on a commencé en fait par, comme beaucoup de médias gratuits, par fonctionner avec la publicité. On s'est vite rendu compte que c'était pas la panacée, c'est-à-dire que la publicité aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'assez fluctuant. On l'a vu par exemple pendant la période du Covid où tout s'arrête d'un coup. On le voit aussi avec une période comme aujourd'hui, avec la crise économique, où beaucoup d'entreprises hésitent à communiquer. Donc la publicité, même si c'est un modèle de revenu conséquent pour nos médias, c'est pas la seule option. On a quelques aides publiques, mais on fait aussi ce qu'on appelle, alors évidemment ce ne sont pas nos journalistes qui font ça, mais une partie de l'entreprise, de la prestation de service. Par exemple, rédiger des articles qui nous sont commandés par des éditeurs indépendants ou par exemple ici à Tours, le marché des Halles. Donc ça, ce sont des choses que on peut faire. On a des photographes qui font partie de l'entreprise, qui peuvent faire des photos de mariage et qui vont finalement nous permettre de faire aussi d'autres prestations comme de l'éducation aux médias, de l'animation de conférences. Donc en fait, on est obligé de diversifier au maximum nos sources de revenus pour pouvoir ensuite créer de l'emploi journalistique derrière.
Et pour vous, Cécile?
Alors Mediapart s'est créé il y a 15 ans sur un pari qui à l'époque était un petit peu fou, ne se basait que sur l'abonnement pour avoir des revenus. À l'époque, personne n'y croyait et il a fallu le courage et l'intuition des cofondateurs et cofondatrices pour y aller. Et 15 ans plus tard, on est toujours sur le même modèle. On a la chance de ne vivre que de nos abonnements. Donc à 98%, c'est de l'abonnement individuel et les 2% résiduels étant l'abonnement collectif et institutionnel. Et puis un petit peu de revenus générés par les agrégateurs de contenu. Donc à Mediapart, on a fait ce choix-là et on continue de faire ce choix-là parce qu'on considère que c'est le seul moyen de produire une information complètement indépendante. Donc on n'a pas de subvention publique, on n'a pas d'accord avec les plateformes. C'est aussi de plus en plus la tendance de nombreux médias de conclure des accords commerciaux avec Google, Facebook, etc. On n'a pas de mécène, on n'a pas de publicité et on a la chance. Et c'est vrai que ça permet aux journalistes de travailler en toute liberté, en toute indépendance. On a la chance de vivre uniquement et plutôt bien grâce à l'abonnement.
Le modèle économique de Mediapart, il est assez reconnu, mais est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui est exclusif à quelques médias qui ont de l'influence, qui ont beaucoup d'importance? Est-ce que vous pensez que c'est un modèle qui peut être viable pour vraiment plus de médias que vraiment c'est... Est-ce que c'est pas une exception en fait, Mediapart, cette réussite?
Alors souvent, effectivement, on considère que Mediapart est une exception. On est loin d'être les seuls à se lancer sur ce type de modèle économique. On a beaucoup de partenaires régionaux comme Mars Actu, Mediacité notamment, qui sont aussi basés à la base sur de l'abonnement. On voit que c'est plus compliqué. C'est vrai que Mediapart s'est mis dans un créneau à un moment où personne d'autre n'y était et que les initiatives aujourd'hui qui cherchent à suivre ce chemin-là rencontrent plus de difficultés. Et nous, aujourd'hui, on a une notoriété qui nous permet de continuer à vivre de l'abonnement, mais on se rend bien compte que ce n'est pas si facile que ça pour d'autres initiatives qui se lancent plus tard.
C'est vrai que c'est très compliqué. En fait, nous, on y a par exemple pensé au niveau local. On voit qu'il y a assez peu de médias locaux qui ont réussi ce modèle de l'abonnement. Il y en a plusieurs qui se sont cassés les dents dessus. Il y a un côté où on aimerait avoir ça, par exemple, le lectorat est quand même pas forcément extensible sur une zone comme Tours. Le département d'Indre-et-Loire, c'est 600 000 habitants. L'agglomération de Tours, c'est 300 000. Ça serait très compliqué aujourd'hui d'avoir un modèle sur abonnement. Par contre, on peut espérer fidéliser nos lecteurs et et en tout cas les fédérer financièrement par exemple des systèmes de dons. Il y a la plateforme J'aime l'info qui fonctionne avec beaucoup de médias qui propose de faire des dons et des dons défiscalisés pour aider les médias, et ça c'est un levier qu'on peut essayer de lever aussi par exemple nous ou d'autres médias locaux.
Jean-Marie Charron, je me tourne un peu vers vous puisque vous êtes sociologue des médias. Par rapport à ces questions-là, est-ce que vous pouvez envisager ou imaginer que du coup, des modèles qui sont encore un peu précaires, qui dépendraient par exemple que des abonnements, ça puisse devenir quelque part la norme, ou que ça soit beaucoup plus, que beaucoup plus de médias puissent se permettre ce type de modèle économique ?
D'accord. Si vous voulez, je crois qu'il faut avoir à l'esprit qu'on est vraiment à... on a toujours tendance à dire mutation, hein, mais un moment qui est vraiment dont on n'a peut-être pas complètement conscience quand on est à l'extérieur, mais un tournant très radical. C'est-à-dire que moi qui observe les médias depuis pas mal d'années, on peut dire qu'avec l'arrivée de l'Internet, il y a vraiment une tenaille qui s'est mise en place. D'un côté, les ressources publicitaires sont parties vers d'autres secteurs, et maintenant on le voit bien avec les plateformes, hein. Le public jeune aujourd'hui n'utilise pratiquement que des smartphones. Le revenu publicitaire des smartphones va essentiellement sur deux grandes plateformes en France, en tout cas, c'est-à-dire Google, Facebook, etc. quoi. Mais c'est dans des proportions absolues. Les médias traditionnels ont des miettes. Hein, ça, il faut bien l'avoir à l'esprit. Donc il y a ce premier aspect. Le deuxième aspect qu'a apporté Internet, c'est la gratuité. Effectivement, l'idée pour beaucoup d'entre nous, et surtout plus on est jeune, j'ai l'impression plus c'est le cas, plus il nous paraît évident que l'information, en tout cas l'information de première nécessité, de tous les jours, l'actualité, c'est quelque chose qui doit nous venir gratuitement. Alors c'est vrai que par rapport à ces données-là, on les a, même si certains ont mis du temps à les comprendre, mais on les a depuis une trentaine d'années. Et c'est vrai qu'il y a, comme l'a dit Cécile, il y a eu deux grandes options. Une première option qui était très dominante, c'était de partir sur la gratuité. Et on a vu effectivement un certain nombre de grands médias. D'ailleurs, on évoque souvent les questions de concentration. Il faut bien avoir à l'esprit que les questions de concentration ont beaucoup été liées à ce modèle gratuit, parce qu'on a voulu faire des audiences considérables. Et on voit bien aujourd'hui que ce modèle est une impasse. Parce que jamais aucun média, quels que soient les degrés de concentration, n'arrivera sur ces nouveaux supports à concurrencer ces intermédiaires. Enfin, nous, on appelle ça des infomédiaires, c'est-à-dire ces intermédiaires qui se sont glissés entre les médias et le public. D'où le fait qu'effectivement, l'option de l'abonnement et du payant reviennent effectivement en force. C'était l'option que connaissait bien la presse écrite, et c'est une option qui s'impose effectivement sur le numérique pour certains. Mais, si vous voulez, ce qui me frappe en tant qu'observateur extérieur, c'est qu'on voit bien qu'il y a un public pour l'abonnement uniquement si on a une information à valeur ajoutée. L'information, le tout venant, ce qui est plutôt le flux, le redondant, personne ne veut l'acheter. Et je pense que personne ne l'achètera.
Et qu'est-ce que vous appelez
autrement dit, attendez. Autrement dit, je pense que le gros sujet auquel on est confronté les uns et les autres, c'est pas qu'il y ait quelques médias qui fassent de l'information de qualité et qui réussissent avec de l'abonnement. Enfin, si, il faut qu'ils le fassent, c'est très important, etc. Et on voit que ça marche aussi bien sur l'imprimé. Hein. Vous avez vu comment se sont développés les MOOC ou un certain nombre de publications assez qui font aussi de l'information de fond, etc., avec le support imprimé. Et on voit que sur le numérique, on a exactement... Le problème, c'est que quand on commence à regarder les publics, on voit bien qu'on est toujours sur les mêmes publics. Autrement dit, le grand défi, et là on est à Tours, le grand défi effectivement, il est par exemple sur les médias de proximité, de se dire comment, lorsque je suis à la tête d'un quotidien régional, d'une radio qui n'est pas publique et qui est de proximité, comment je peux trouver un modèle qui permette effectivement ce financement de l'information et qui intéresse effectivement un public qui, lui, est probablement un public sociologiquement différent. C'est un chantier qui est devant nous, c'est un chantier qui est ouvert pour ceux que je viens d'évoquer, et c'est probablement aussi le chantier auquel se destinent ceux qui, dans un premier temps, se sont d'abord positionnés par rapport à des publics très gros consommateurs d'informations, et qui aujourd'hui vont devoir, je pense que ça va être le cas de Mediapart, de Mediacité et d'autres, dans ma région c'est le Poulpe, etc., de gagner davantage de publics, peut-être avec des approches qui soient plus accessibles pour des publics différents sociologiquement.
tout à l'heure, vous parliez de... Il y a peut-être une minute, vous avez parlé de force ajoutée, de valeur ajoutée à l'information par rapport à d'autres médias en comparaison avec ces médias qui étaient gratuits grâce à la publicité, etc. C'est quoi cette valeur ajoutée? Comment vous la décririez? Ou peut-être vous, Monsieur Gans.
La valeur ajoutée de l'information par rapport à d'autres types de médias, c'est l'utilité sociale qu'elle peut apporter au public auquel elle s'adresse. Donner simplement la météo ou le résultat de football, c'est intéressant, mais ça n'a pas une utilité sociale pour les gens qui reçoivent cette information par rapport à un travail plus de fond que peut faire par exemple Mediapart sur le monde du football, pour rester un instant sur cet exemple. Je pense que c'est au minimum cela. La question qu'on peut se poser, c'est que quand même l'information de base, c'est-à-dire le résultat du match de foot, il faut à un moment donné qu'il y ait quand même quelqu'un qui aille l'enregistrer, qui aille le noter, qui ne soit pas payé par le club de football pour le faire et qui soit crédible pour la donner. Donc cette information de base, il faut quand même aussi, quelque part, qu'elle soit produite par des journalistes.
Et peut-être vous faire rebondir sur ça, Olivier, parce que c'est vrai que vous travaillez à la fois pour InfoTour et 37 degrés, et il y a un peu ces deux dimensions-là, de donner à la fois de l'info ajoutée, comme on a dit, mais aussi de l'info plus peut-être brute, je ne sais pas.
Exactement. En fait, notre modèle, il est que InfoTour est un média du quotidien, c'est-à-dire qu'on va à la fois, en effet, traiter les actualités sportives, par exemple, ou alors ce qui s'est passé au conseil municipal, typiquement quelles décisions ont été votées, ou alors les informations trafic. Et puis avec 37 degrés, On a pris le parti de cibler un public qui s'intéresse déjà à l'information, qui a déjà les informations de base, mais qui veut aller plus loin. C'est-à-dire qu'on va avoir quasi exclusivement que des articles plus longs, donc des portraits, notamment des portraits d'artistes, des interviews long format, d'élus, de chefs d'entreprise. On va avoir des analyses aussi. Le fameux conseil municipal, on va l'analyser en détail. Quels sont les enjeux de telle ou telle décision? Voilà. Donc on a moins d'articles, beaucoup moins de contenu sur 37 degrés par rapport à InfoTour. Mais on a ce qu'on peut appeler en effet du contenu avec plus de valeur ajoutée, parce que pour le coup on va aller à chaque fois plus loin, et on a même créé une dimension supplémentaire, c'est que tous les 6 mois on sort un magazine papier où là on va encore plus loin dans nos recherches. On va faire des reportages long format qu'on n'a pas le temps de faire le reste de l'année parce qu'on est pris dans le quotidien, et on va même carrément faire des dossiers, et là on va aller chercher un nouveau public puisqu'on part sur du papier, donc un public qu'on n'a pas habituellement sur internet, qu'on va aller chercher par des distributions dans les galeries commerciales, dans les boulangeries, dans les lieux culturels, pour capter un nouveau public à l'information, et à l'information du quotidien et à l'information locale en particulier.
Et alors, si je reviens sur un peu la question du modèle économique, vous, Olivier, vous nous avez dit que vous dépendez en grande partie de publicité ou de demandes de prestataires, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Est-ce que vous avez l'impression que ce type de modèle économique, ça va avoir une influence, par exemple, sur votre ligne éditoriale, sur les angles choisis, sur les sujets traités, ou pas spécialement?
J'ai du mal à le quantifier précisément. Je pense qu'inconsciemment, il doit y avoir quand même quelque chose qui joue là-dessus. Forcément, parce que en plus dans une petite équipe, on est vite impliqué, on entend vite parler des décisions économiques, de ah bah tiens, un tel a signé, un tel a pas signé pour une publicité. On voit les choses passer, ce qui est peut-être moins le cas dans un grand média. Après, moi j'essaye par exemple vraiment de m'en détacher complètement dans mon travail journalistique. Je m'en fiche de savoir si le conseil départemental nous a pris une publicité pour ses colonies de vacances. Si je décide d'en parler, j'en parle. Si je veux pas en parler, je n'en parle pas, et je me contrefiche de savoir si derrière il va vouloir nous prendre un contrat ou pas. Ça, c'est pas mon problème à moi, et ça sera jamais, il n'y en est pas question.
Pierre Grand, j'ai vu que vous vouliez ajouter quelque chose.
Oui, parce que je pense que c'est intéressant, cette question du modèle économique. Et cet exemple montre que les médias cherchent d'autres sources de financement que la source idéale, qui est le lectorat. Si on pouvait financer tous les médias avec le lectorat ou avec les téléspectateurs en les faisant payer, ça serait formidable. Forcément, il y a d'autres sources de financement à chercher. La plus simple, la plus évidente, c'est de la publicité. Vous êtes l'exception, bien sûr, à Mediapart, puisque vous êtes financé que par vos lecteurs. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et là, quand même, je voudrais poser la question aussi en termes d'éthique et de déontologie. Parce qu'il y a un moment donné, monsieur vient de dire inconsciemment, je ne sais pas si je suis influencé ou pas. C'est à la fois franc et terrifiant d'entendre cela. Parce qu'il faut que ces nouvelles sources de financement, elles n'aient pas d'interférence avec le contenu, où elles aient le moins d'interférences possible si on ne peut pas mettre une barrière totale et définitive là-dessus. Il y a un risque de confusion dans la tête et des lecteurs et des journalistes quand vous avez, par exemple, fait un partenariat ou une prestation de service pour l'entreprise A et que vous allez parler 3 mois après de cette même entreprise A. Et d'ailleurs, est-ce que vous serez totalement libre intellectuellement d'en parler ? Est-ce que le lecteur pourra pas se dire, mais après tout, il me parle aujourd'hui d'entreprise A, mais il y a 3 semaines ou 2 mois, il faisait une prestation pour cela. Il y a un risque de crédibilité à long terme des médias qui est posé. Je ne dis pas qu'il faut se fermer ces sources de ce financement-là. Je sais qu'il y en a, c'est difficile d'en trouver. Mais je pense qu'il faut mettre au centre de sa réflexion, y compris au moment de la négociation avec les éventuels financiers indirects, ce type de questions sur la table. Si on ne le fait pas, elles vous reviennent à un moment donné dans la figure, vous perdez votre crédibilité et vous perdez votre public.
Et dans ce contexte, quelle place peut prendre les subventions publiques ? Est-ce que pareil, ça peut poser problème parce que on va diffuser une interview de quelqu'un qui parle de ces médias et qui accepte pas, par exemple, les médias de la région parce que s'ils enquêtent sur la région derrière, c'est compliqué. Est-ce que les subventions c'est une solution ou pas vraiment ?
Alors l'argent public n'est pas de l'argent sale, hein, c'est de l'argent des citoyens. Il faut d'abord le dire, parce que très souvent on a un peu tendance à considérer qu'argent public égale quelque chose qu'il ne faut pas fréquenter. Mais là aussi, il faut poser des garde-fous. Le meilleur garde-fou, c'est de mettre la distance la plus grande possible entre le média et la source d'argent public. Si c'est la mairie qui aide à financer le journal qui est publié dans la ville, elle est très très proche et le risque d'interférence, il est énorme. Si c'est l'État qui a une politique générale, le développement des médias locaux dans les petites villes, ça peut passer un peu plus facilement. Donc ça, c'est la première règle. La seconde, c'est aussi de savoir à un moment donné poser des barrières, y compris, je vais être un peu brutal, jusqu'à mettre en péril la survie du média dans lequel on travaille, mais en disant aux financeurs publics, non, je ne le ferai pas. Ça peut créer une disparition du média, mais ça peut aussi créer un réflexe dans la société pour aider à financer davantage les médias indépendants avec d'autres sources.
Vous vouliez ajouter quelque chose, Madame So ?
Oui, effectivement, tout type de financement crée des dépendances. Alors, nous, la seule différence, c'est que notre dépendance, elle est vis-à-vis de nos lecteurs et nos lectrices. Donc, on leur rend des comptes. On essaie d'être aussi transparent que possible. Tous les journalistes publient des déclarations d'intérêt sur le site Internet. On explique en boîte noire de nos articles tout un tas d'éléments qui peuvent servir à la compréhension de la manière dont on est parvenu à l'écriture de l'article. Donc, on a quand même une dépendance. Néanmoins, elle est différente de tout type de dépendance liée à des financeurs. Je voulais parler de l'initiative de la création du Fonds pour une presse libre, parce que donc Mediapart est désormais détenu à 100% par le Fonds pour une presse libre, qui est un fonds de dotation dont le rôle est justement d'aider toutes les initiatives de presse qui cherchent à produire de l'information indépendante et libre. Et du coup, ça fait partie des démarches engagées pour soutenir, pour donner des alternatives à tout ce qui est subvention publique, même si on se rend bien compte à l'usage, qu'y compris les médias qui sont financés par le FPL, soit sous forme de dons, soit d'avances de trésorerie, demandent aussi généralement des subventions publiques, et on recourt aussi à d'autres sources de financement. Néanmoins, on pense qu'il faut à tout prix encourager tout ce qui peut permettre une presse complètement indépendante et libre pour le droit de savoir des concitoyens et des concitoyennes et pour la révélation d'informations d'utilité publique. Nous, on essaye de faire un journalisme d'impact, c'est-à-dire un journalisme qui permet de changer les choses, de faire bouger les lignes. On a vu que certaines des révélations de Mediapart depuis plusieurs années ont permis de créer des nouvelles instances de contrôle, d'éclairer aussi les concitoyens et les concitoyennes sur un certain nombre de questions. Et on est persuadé qu'il faut absolument encourager l'indépendance de la presse pour permettre à chacun, chacune de s'informer correctement.
On va juste écouter un extrait d'interview de Milie Servant, qui est rédactrice en chef du média indépendant Climax et qui nous parlait justement des financements de son média.
Donc effectivement, on a des finances qui sont assez contraintes, en tout cas dans un premier temps. Donc on dépend de nos lecteurs, donc il faut leur demander justement de soutenir le média, en fait de soutenir l'information qu'ils ont envie d'avoir. Et ça, c'est vrai que c'est pas forcément évident à l'heure où justement il y a beaucoup de presse gratuite, que ce soit en ligne ou sur les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, on peut s'informer de différentes manières. Mais non, je dirais pas que ça contraint notre information. Après, ça la contraint simplement une question de moyens, quoi. Donc non, il y a plein de manières de s'en sortir. Nous, on sait qu'il faut qu'on augmente notre volume d'abonnés, et ça va se faire assez naturellement. D'ailleurs, il faut que ça se fasse naturellement. Mais ça nous permet de garder cette indépendance-là. Et...
Est-ce que le moment où on entre dans une phase où on a des annonceurs, on a des publicités, etc., est-ce que tu sens un changement, ça change l'approche ou pas? Ou juste ça donne plus de moyens au niveau de l'expression journalistique?
Je viens de Uzbek Erika, qui a un modèle... j'ai travaillé pendant 3 ans pour eux en tant que pigiste. Et ils ont un modèle qui est un peu hybride, c'est-à-dire qu'ils ont un média qui est plutôt indépendant, dans la ligne éditoriale et indépendante, globalement. Mais ils ont aussi un studio pour qui ils font des articles qui sont publiés sur le même site. Et je trouve qu'il y a parfois une confusion. Il peut y avoir, en tout cas certains lecteurs l'ont dit, une confusion entre les articles qui sont payés par des entreprises qui sont du public rédac finalement, même s'ils font du public rédac de manière un peu plus maligne que pas mal de médias. Mais il peut y avoir une confusion et le lectorat en fait perd confiance. Et nous, en fait, ce que ça nous permet tout ça, c'est d'avoir la confiance de notre lectorat. Si on se mettait à faire de la pub, si on se mettait donc à adopter un modèle qu'on exècre profondément et on ne pourrait pas avoir le discours, si je caricature, un peu anticapitaliste. Et ça empêche d'être radicaux autant que nous, on veut l'être. Et notre lectorat, c'est tout. Et je pense que c'est ça aussi qui change dans les médias qui dépendent des annonceurs ou des actionnaires. C'est eux, les clients, finalement. Enfin, en tout cas, c'est eux qui financent. Donc forcément, on se soucie davantage de leurs intérêts. Nous, ceux qui nous financent et ceux sur lesquels on a envie de compter à 100% un jour, pour l'instant, c'est pas encore 100%, mais on espère que ça va le devenir, c'est notre lectorat. Donc il faut qu'on les bichonne, il faut qu'on les respecte, il faut surtout qu'on leur serve exactement ce qu'on leur promet.
Cécile, est-ce que vous voulez réagir aux propos de la rédactrice en chef qui parle aussi beaucoup du coup de la confiance du lectorat, de ce modèle économique qui marche surtout avec des abonnements finalement?
Bah oui, ça résonne tout à fait avec ce que je disais juste auparavant. Quand on ne vit que sur les abonnements des lecteurs et des lectrices, on leur doit une certaine qualité d'information. On doit aussi prendre en compte leurs attentes, leurs retours, ce qu'on fait beaucoup, nous, par le biais du participatif. Mediapart, c'est aussi un des rares médias qui a encore des blogs qui sont ouverts à toute personne qui a un abonnement à Mediapart et dont on encourage beaucoup, avec des journalistes spécialement dédiés à ça, la participation de chacun chacune, parce qu'on considère aussi qu'un journal doit être une arène démocratique et que la contribution de gens qui sont non journalistes est aussi importante que celle de gens qui sont des journalistes professionnels. Donc effectivement, ça résonne beaucoup ce que dit la journaliste de Climax.
Et toi Olivier, t'as pas du tout le même modèle. Est-ce que c'est des réflexions que tu partages aussi avec l'extrait qu'on a pu entendre?
Oui, c'est des réflexions qu'on partage, de voir ce qui peut intéresser notre lectorat, comment on peut aussi l'impliquer dans nos choix, dans nos sujets. C'est ce qu'on peut avoir l'occasion de découvrir quand on fait de l'éducation aux médias, par exemple. Là, on travaille aussi sur la réflexion sur avoir un lieu en fait public où seraient nos bureaux, où on pourrait donc du coup rencontrer typiquement la population qui viendrait pour des événements culturels, où on pourrait donc à la fois par exemple interroger la compagnie qui vient présenter un spectacle de théâtre, mais aussi découvrir son public et du coup voir qu'est-ce qui pourrait intéresser ensuite derrière les personnes présentes pour créer d'autres sujets. Moi je me suis rendu compte que à force de faire ce métier, on n'avait pas assez l'occasion d'avoir de longues discussions, de longs échanges avec des personnes qui ne sont pas dans un milieu politique, culturel ou économique, qu'on a de plus en plus tendance à se couper malgré nous parfois, avec l'urgence de traiter tel ou tel sujet d'une frange de la population, et il faut qu'on arrive à la retrouver, à la rejoindre, à pouvoir échanger pour comprendre ses attentes et réussir ensuite derrière à l'intéresser pour ne pas rester dans des vases clos.
Jean-Marie Charon, vous vouliez réagir?
Oui, si vous voulez, je crois que le gros sujet sur lequel, en tout cas, en tant qu'observateur, je bute, c'est que les modèles payants, avec toutes leurs vertus par rapport à la qualité de l'information, sont des modèles qui butent sur un certain nombre de catégories sociales. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un public populaire qui, aujourd'hui, parce qu'il est confronté à des tas de problèmes, peut-être aussi parce qu'il a été largement influencé par le modèle de la gratuité, qui a du mal effectivement à pouvoir entrer dans des problématiques d'abonnement. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, la presse populaire, ce qu'on a, le 19e siècle et l'apparition de la presse populaire, c'était la publicité en même temps, quoi. C'est vrai que ça a toujours été le modèle qui a permis de compenser ce que le public n'était pas prêt à payer. Et c'est vrai que depuis quelques années, enfin depuis qu'on est sur ces nouveaux modèles, et notamment les pure players ont pas mal travaillé dans ce sens-là, que ce soit en France ou aux États-Unis ou ailleurs, on a cherché des alternatives. Il y a eu par exemple cette idée d'appeler le public à financer l'information en amont, ce qu'on appelait le crowdfunding. On a vu effectivement un certain nombre de médias qui ont appelé sur une enquête, sur un dossier, etc., à coup près financer cette information. Mais je me souviens qu'ici, même aux Assises, il y a quelques années, un chercheur nord-américain est venu faire la synthèse d'une étude qui avait été faite sur le crowdfunding et qui disait en gros, le public est prêt à financer des enquêtes, est prêt à financer des dossiers ponctuellement, mais il n'est pas prêt à payer des rédactions. C'est-à-dire qu'effectivement, le financement, ça lui échappe un peu comme problématique. Et en plus, je ne sais pas si sociologiquement, on ne retomberait pas sur la même problématique que j'évoquais tout à l'heure. Donc, si vous voulez, on est tous un peu au pied, je dirais, d'une pente très raide où il faut absolument qu'on invente des modèles alternatifs. D'abord, comme je le disais tout à l'heure, parce que la publicité manque. Et puis parce qu'effectivement, comme ça a été dit, on a aujourd'hui probablement une sensibilité beaucoup plus forte que précédemment à la manière dont une publicité ou le financement par la publicité peut être effectivement toxique par rapport à l'information. Et je rajouterais que l'urgence est d'autant plus grande que plus on est dans des périodes de rareté publicitaire, ça on n'en a peut-être pas toujours, plus on est en période de rareté publicitaire et plus on est dépendant des annonceurs. Moi, j'ai travaillé pendant quelques années au sein du groupe Bayard. Je m'occupais d'une revue au sein du groupe Bayard, en presse jeune notamment. Les revenus publicitaires de la presse jeune ont toujours été dérisoires. Ça a toujours été au-dessous de 10%, etc. Mais quand on discutait avec nos collègues de ces magazines, ils nous disaient « Mais détrompe-toi, parce qu'on a peu de publicité, mais ça nous contraint énormément parce que précisément, c'est ces 10% qui nous permettent d'arriver à l'équilibre. » Vous voyez, la question, c'est pas forcément, on a souvent l'image, ah, celui-là, il a énormément de pubs, donc il est très dépendant. Attention, on peut très bien aussi être extrêmement dépendant en période de rareté publicitaire. Et là, je crois qu'on est en plein dedans.
Vous parlez d'un public qui est potentiellement plus prêt à financer des projets plutôt que des rédactions. Comment on peut expliquer ce phénomène-là ? C'est-à-dire que, est-ce que c'est un manque de confiance des rédactions, ou alors c'est notre modèle de consommation aussi qui est une suite d'actualité ? Enfin, ça s'explique comment ?
Je pense que vous avez raison. Il y a probablement l'idée du. On est peut-être sur un modèle davantage de consommation. Je paye pour avoir ce que je veux. Il y a probablement aussi un modèle qui s'impose progressivement pour nous, qui est celui d'une information à la demande. Je ne vais chercher que ce qui m'intéresse, alors avec les aspects positifs et les aspects négatifs. Et il y a aussi probablement une culture, et on parle beaucoup d'éducation aux médias, mais une culture générale autour de la production de l'information qui sous-estime certainement ce que sont les coûts réels d'une rédaction. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas simplement celui qui va en reportage ou celui qui, journée spécialisée, qui va faire tel dossier, qui va faire qu'une information va être produite. C'est tout un ensemble, tout un environnement de collègues, de confrères, qui lui permettent effectivement d'arriver à ce résultat.
Merci beaucoup, Monsieur Charron, et merci beaucoup à vous quatre. Merci beaucoup à Lou. On va se laisser pour. On va aborder la notion d'infotainment, ou comment le divertissement il peut tout simplement déformer l'information. Mais avant, on va respirer un petit peu et en musique.
C'est bon.
On vient d'écouter Les Astres de Barrio Colette, le groupe de Genève qui va sortir son premier album demain et qui sera disponible sur toutes les plateformes.
Les Radio Campus aux Assises Internationales du Journalisme de Tours.
Et oui, toujours en direct des Assises de Tours sur notre plateau. On va maintenant discuter, de la frontière qui est assez fine entre l'information journalistique et le divertissement. J'ai une première question qui est assez complexe, Monsieur Gans. Est-ce qu'on peut informer correctement en divertissant ?
L'information, c'est pas forcément triste. Hein. On peut se divertir en informant. Mais je pense qu'il faut peut-être revenir un petit peu au sens des mots. Traditionnellement, on dit que les médias, ils sont là pour informer, pour divertir, pour instruire, pour cultiver. Et ces quatre fonctions, elles ont chacune leur sens et elles doivent avoir chacune leur espace. Je pense qu'on est dans une période où on confond de plus en plus les unes avec les autres et c'est démocratiquement dangereux. Et puisqu'on parlait de modèle économique tout à l'heure, c'est aussi économiquement dangereux pour les médias. On voit apparaître, et on n'en a pas parlé tout à l'heure, je pense que c'est intéressant de développer ça maintenant, parce que pendant qu'on réfléchit, nous ici, comment financer les médias, il y a des gens qui réfléchissent à comment investir les médias à travers des financements pour, entre guillemets, contrôler leur contenu. À l'époque où il y avait la publicité d'un côté et le contenu éditorial de l'autre, c'était assez simple. Maintenant, il y a le contenu éditorial et puis il y a plein de choses intermédiaires entre la publicité franche, nette, encadrée par des colonnes qui décident que c'est la publicité et d'autres choses. C'est ce qu'on appelle le brand content, c'est-à-dire un article qui, sous couvert de vous parler de quelque chose de sympathique, vous vend en fait une marque, vous vend en fait un produit, vous vend en fait un concept. C'est le travail que font des gens que je ne considère pas comme journaliste, mais que beaucoup des jeunes qui sont à l'écoute aujourd'hui considèrent comme des journalistes, des informateurs, qui sont les influenceurs, qui sont ni plus ni moins que des représentants de commerce, de marque. Il faut appeler un chat sous influenceur, c'est représentant de commerce.
Donc, après, les influenceurs ne revendiquent pas tous forcément avoir une démarche journalistique aussi.
Oui, mais les gens qui les écoutent ne font pas forcément la différence entre la démarche de l'influenceur et la démarche du journaliste dûment patenté qui fait un travail sur Mediapart.
Par quel biais le divertissement il va pouvoir dénaturer une information ?
Parce qu'il est là pour divertir et que l'information peut être sérieuse, elle peut être gaie, je l'ai dit tout à l'heure aussi, mais on est d'abord là aussi pour informer les gens avant de les faire rire. Alors, ça peut passer certaines fois. Vous avez une émission comme Quotidien, par exemple, que beaucoup de gens regardent. Elle peut avoir des moments d'information très sérieux, très bien construits. Et puis, elle peut avoir des moments d'information qui, parce qu'elle se laisse aller un petit peu trop dans le divertissement, bien sûr la rigueur éditoriale, sur la rigueur de présentation des faits, va petit à petit dériver, parce qu'elle trouve ça drôle de dire quelque chose, mais le trait d'humour ne pollue, si je puis dire, la présentation exacte des faits. Ça peut arriver.
Complètement, on allait en aborder, il y a beaucoup de supports d'infotainment évidemment sur les réseaux sociaux, mais beaucoup sur la télé aussi. Bon, les deux principaux qui ressortent évidemment, c'est TPMP et Quotidien. Par exemple, TPMP était à la base une émission de divertissement, mais depuis plusieurs années, elle accueille des débats très politiques, même carrément des politiques. Cyril Hanouna, pour autant, il revendique de faire de l'opinion. Quelle nuance on peut faire entre journalisme, opinion et divertissement, Cécile Sourd ?
Je crois que un des problèmes fondamentaux, enfin, c'est faire la différence à la base entre ces types de productions qui ne sont pas de même nature, et puis à la manière dont c'est reçu, et c'est surtout la réception par les personnes qui est inquiétante, parce que qu'on passe d'un registre à un autre sur le même plateau de télévision, c'est possible, mais faire comprendre qu'il y a un moment où on fait de l'information avec toute la rigueur que ça demande, recoupement des informations, etc., et qu'ensuite on passe à quelque chose de plus divertissant, il faut pouvoir l'expliciter. C'est souvent le problème de la réception par les personnes qui se pose. Nous, à Mediapart, même si l'information peut être joyeuse, on fait rarement de... Voilà, on n'est pas tellement connu pour écrire des articles réjouissants et on le déplore, mais notre éthique journalistique fait qu'on est plutôt en train de révéler des choses qui sont inquiétantes et plutôt que d'essayer de donner des informations plus joyeuses. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. La différence, en fait, nous, on fait que de l'information. Donc, clairement, on a choisi notre registre et on est reçu comme tel. Les gens qui nous lisent savent qu'ils ne trouveront que de l'information. Et on est très très inquiet, en fait, de l'évolution de certains plateaux de télévision tels que celui de Cyril Hanouna, qui, sous couvert, justement, d'organiser du débat politique ou du débat de société, laisse aussi des voix porteuses d'idéologies racistes, très, très problématiques. Voilà, ces gens-là ont libre antenne et ça peut être interprété comme de l'information, alors même que c'est de l'opinion, voire même de l'opinion dangereuse, en fait.
Et pour autant, Cyril Hanouna, alors j'ai l'impression de faire l'avocat du diable, mais il se revendique comme étant un espace démocratique parce que bah voilà, on est écouté par je ne sais pas combien de millions de personnes et je suis le porte-voix de toutes ces personnes qui m'écoutent.
Être un espace démocratique ne signifie pas que vous fassiez de l'information de qualité. Que moi, je suis au Café du Commerce avec les copains et je raconte des bêtises, c'est une discussion libre, démocratique, respectueuse des copains qui sont autour de moi. Ça ne veut pas dire que je fais une information de qualité, comme le disait à l'instant ma voisine, avec des informations sourcées, recoupées, vérifiées. Le travail qui est fait dans une émission comme Touche pas à mon poste, c'est une émission d'opinion, pour rester poli, quand ce n'est pas une émission de propagande, et il ne peut pas revendiquer systématiquement de faire de l'information. Quand on donne la parole à quelqu'un qui développe des thèses complotistes, je vais même aller plus loin, quand il donne des thèses sans amener le début du commencement d'une preuve de ce qu'il dit, c'est pas de l'information.
Et en plus, ça vient à la notion de fact-checking, de fake news, quoi, tout simplement.
Mais là, ce que je voudrais vraiment insister, parce qu'il ne faut pas que dans la tête du public, il y ait une confusion. Et encore une fois, c'est de ce point de vue-là qu'il faut prendre le problème. Moi, Cyril Hanouna, il ne m'empêche pas de dormir et il ne me gêne pas. Ce qui me pose problème, c'est que petit à petit, on introduit dans la tête du public, on éduque les gens à tout confondre, à confondre ce qu'est une grosse blague avec ce qu'est la présentation d'un fait qui a été établi par des gens qui ont pris le temps d'établir ce fait. Et c'est là où est le danger.
Et c'est aussi un danger démocratique, ce rapprochement entre divertissement et journalisme.
Oui, alors, parce que pour être vraiment une arène démocratique, il faut employer ce qu'on appelle le contradictoire en journalisme, c'est-à-dire mettre en face à face plusieurs opinions qui se répondent avec des arguments différents. Et c'est en ça que je pense que l'argument de Cyril Hanouna de dire qu'il est démocratique est erroné, enfin, est fallacieux, parce qu'il ne met pas en regard différentes opinions. Il a une opinion qu'il essaye de transmettre. Et c'est ça le journalisme, en fait. C'est faire du contradictoire. C'est confronter des faits, vérifier, recroiser, donner la parole à chacun, chacune dans le cadre d'une enquête, par exemple, et c'est tout ce que ne fait pas cette émission de télé.
Si on compare, par exemple, avec ce que font C'est à vous ou Quotidien, ils peuvent aller donner la parole à des personnes qui vont avoir des thèses extrémistes ou complotistes, mais ils vont le mettre dans un contexte. Ils ne vont pas leur donner une libre parole comme va le faire Cyril Hanouna, où la personne vient 20 minutes en plateau et a pratiquement le champ libre, alors que voilà, ils vont cadrer avec des commentaires de journalistes derrière, ce que ne fait pas du tout Cyril Hanouna. Il est là le problème. Cyril Hanouna ne sait pas contextualiser une information.
Pour être parfaitement honnête, il faudrait qu'il soit ici pour se défendre, puisqu'on est en cause.
Tout à fait.
Alors, dans quelques instants, on va écouter un petit extrait de l'émission Quotidien, justement, on en parlait.
Un message personnel notamment pour Vanessa, Cathy, Angélique, Léa, Elisa, Chloé. Nous avons bien reçu votre mail. Oui, la Guyane existe et on va en parler tout de suite. Mais on ne voulait pas en parler sans vraiment comprendre ce qu'il s'y passe en ce moment. Et on a compris.
Ce qui se passe en Guyane, en effet, depuis plusieurs jours, est grave. Je crois que bloquer les pistes d'aéroport, bloquer les décollages, parfois même bloquer le fonctionnement de l'île, ne peut être une réponse apportée à la situation.
Voilà, on a compris. La Guyane est une île. Ce matin, sur France Inter.
La situation est tendue, reconnaît ce matin la ministre des Outre-mer, Erika Barret, qui appelle au calme et au dialogue. Elle n'exclut pas de se rendre sur l'île.
Mais où est cette île?
Est-ce que vous sauriez situer la Guyane française sur cette carte?
La Guyane, elle est vers autour de l'Amérique, je dirais.
La Guyane française, là, non?
Voilà. C'est par là, je dirais. À moins que ce soit au large du Brésil.
C'est dans la mer des Antilles. Je dirais que c'est par là.
La Guyane. Niveau équateur. C'est pas par là?
Normalement, elle est là.
C'est une bonne question.
Moi, je la mets par là, la Guyane.
Vous êtes par là? Non, c'est plus près. Vous êtes par ici.
C'est l'Afrique? Non, c'est pas l'Afrique, c'est les îles.
Je suis très mauvaise en géographie. La Guyane? Je sais pas. C'est pas par là? C'est plutôt vers l'Afrique?
Vous voyez, j'étais pas loin en la mettant ici, hein, sur la Guyane. On avait fait pareil l'année dernière, et puis sur la Polynésie, on avait eu comme capitale Polyville. Hein, donc ça marche pour tout, même sur la métropole, ça marche sur tout. La Guyane, on va se reconcentrer, c'est ça. La Guyane, c'est ici, à 8000 km de cette terre toute minuscule qu'est la métropole. La Guyane, c'est un sixième du territoire de l'Hexagone. C'est grand comme le Portugal, c'est grand comme la Belgique. 600 km de frontière avec le Brésil. Oui, la plus grande frontière terrestre que la France a. C'est avec le Brésil.
Alors avec cet extrait, on a un mélange intéressant, c'est-à-dire qu'il y a un propos journalistique, enfin, on peut en discuter, sur voilà, ce décalage entre la métropole et la Guyane, avec aussi le discours d'Emmanuel Macron. Pour autant, c'est présenté sous forme complètement divertissante, avec micro-trottoir. On réutilise même la forme journalistique du micro-trottoir pour se moquer en fait, de ce constat-là. Est-ce que c'est une approche... Qui est juste journalistiquement.
Alors c'est intéressant parce qu'en écoutant ça avec vous, je l'avais peut-être vu à l'époque, je me posais une question, quelle est l'information qu'on veut donner au public? Et je me disais, il n'y en a pas. Et puis à la fin, je me suis dit, si, il y a quand même une information qui a été donnée au public, c'est de situer la Guyane sur une carte. Et finalement, il y a un intérêt informatif. Alors c'est toute l'ambiguïté de ce type d'exercice d'infotainment. C'est-à-dire qu'on risque de dériver vers quelque chose qui ne sert à rien, qui distrait le public, qui l'écarte d'un problème, parce qu'il y a un problème de fond, hein, qui est dit au début du sujet, c'est qu'il y a des manifestations en Guyane, mais on les a complètement oubliées. Pourquoi il y a des manifestations? Quel problème elles posent? Comment elles sont déroulées?
Et ils se focusent sur le terme « île ».
Voilà. Et en plus, on s'amuse sur le thème « île », que tous les journalistes de quotidien jurent sur la Bible qu'ils n'ont jamais fait aucun cuir à l'antenne, et on sera content. Faire un cuir à l'antenne, ça nous arrive à tous, et ça va certainement nous arriver d'ici la fin de cette émission. Donc ça, c'était un petit peu puéril, je dirais. Il y a un côté quelquefois un peu puéril dans cette démarche. Mais en même temps, l'exercice que vous venez de nous faire entendre est intéressant, parce qu'au final, il y a quand même une info qui sort.
C'est ça, parce que d'un côté, on se dit, avant peut-être de comprendre pourquoi on manifeste en Guyane, c'est vrai, autant de savoir de quoi on parle. Et c'est là où on disait tout à l'heure que parmi les pieds du journalisme, il y a éduquer. Moi, je me souviens l'année dernière avoir failli être très jugeant vis-à-vis d'une personne qui me demandait c'est quoi les élections législatives. Elle avait 32 ans, elle avait mon âge, et je me suis liquéfié. En fait, je me suis dit, est-ce que je rigole ou est-ce que non, Je lui explique ce que sont les élections législatives. Elle ne sait pas, je lui explique. Il est là aussi notre boulot. Et derrière, j'ai publié un article en expliquant qu'est-ce qu'étaient les élections législatives. Moi, je savais pertinemment tout ce que j'écrivais. J'avais peut-être éventuellement besoin de faire aucune recherche pour le faire. Je pouvais l'écrire de tête. Mais peut-être que 90% des gens qui ont lu mon article ont appris énormément de choses dedans. Il est là aussi notre boulot, je pense.
Et c'est peut-être potentiellement le petit point positif de ces formats-là aussi, c'est que pour beaucoup de personnes, ça va être l'accès premier à une information. Alors, on a bien vu que la manière dont elle est formulée n'est pas forcément bien contextualisée, c'est assez problématique. Mais il y a quand même un petit avantage quand c'est à peu près bien fait, j'imagine. Je sais, qu'est-ce que vous en pensez, M. Gans ?
Oui, alors oui, quand c'est bien fait, quand c'est sans problème. Il faut faire attention aussi quand même sur quel type de sujet vous utilisez ce type de démarche. Bon, là, ça peut passer, même si je suis quand même un petit peu choqué journalistiquement parlant, on est quand même parti d'une crise sociale, hein, d'aéroports bloqués, pour arriver à une franche rigolade et heureusement à un bout de la carte de géographie. Ça pose quand même un problème éthique, je trouve. Hein. Donc, faut faire attention où on utilise ce genre de technique, qui pour moi n'est pas du journalisme réellement. Hein. Même si au final, il y a quand même une info qui est apportée, mais il n'y a pas que les journalistes qui apportent des infos.
Mais pour compléter, moi je découvre complètement aussi, je regarde pas Quotidien et je découvrais l'extrait en même temps et je suis un peu de votre avis, monsieur Gantz. Effectivement, c'est un peu les deux, quoi. À la fois, comme ça percute, on peut se dire bah tant mieux, il y a déjà ça qui va être probablement retenu pour tous les gens qui auront regardé l'émission et c'est déjà pas mal. Et en même temps, ça manque quand même un petit peu de fond parce que, in fine, on ne revient pas à la question du mouvement social, de son pourquoi, son comment, de voilà, analyser un peu plus et donner un petit peu plus que ce qu'on retient au final de ce petit reportage.
Alors après, on n'a pas non plus la suite de l'extrait. Peut-être que derrière, ils ont, je ne me souviens plus de l'émission, je crois l'avoir vue, mais ils ont peut-être parlé derrière aussi du fond du sujet.
C'est vrai. Alors, il y a aussi une chose qui, dans cette émission, je ne veux pas la défendre, mais je la regarde assez régulièrement. Ce qui est infotainment, comme on vient de l'entendre, est assez clairement séparé de ce qui est partie informative réelle. Mais on arrive à des moments comme ça où l'ambiguïté est dangereuse.
Pour revenir aussi sur la notion de modèle économique, le divertissement rapporte plus pour les médias. Comment on peut dealer avec ça en tant que média, de se dire bah, en fait ça va moins rapporter ce que je vais faire en tant que journaliste. Quel biais ça va introduire dans la proposition journalistique ?
C'est difficile, c'est des cas de conscience permanents. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à être effaré parfois quand je vois des chiffres d'audience d'un article qui va traiter de la météo, d'un fait divers ou de choses comme ça. Et on va faire un super papier sur une association qui se mobilise pour les réfugiés ukrainiens et on va faire quelques centaines de vues seulement. Il y a des moments où on se décourage en fait de ça et on se demande comment faire en sorte d'intéresser un large public à ce type de sujet-là qui nous paraissent importants, qui nous paraissent capitaux et qui ne sont pas jugés. J'ai pas la réponse. J'aimerais tellement l'avoir.
Ce décalage.
Il faut poser le problème au niveau du média et pas au niveau du journaliste ou de la rédaction. Qu'un média fasse du divertissement et de l'information, si le premier permet de financer le second, pourquoi pas ? À la limite, le journal de TF1, il est financé par la pub, mais la pub, elle vient plus dans les émissions grand public que fait TF1 que dans avant et après les éditions d'information. Donc pourquoi pas. Il faut un peu élargir le spectre. Je pense qu'il reste essentiel en matière d'éthique, d'information et de responsabilité vis-à-vis du public de bien faire la différence quand même entre ce qu'est distraction et ce qu'est information.
Et on y... oui, bah vous
non, pardon. Non, non, à écouter les diverses interventions et les questions qu'on se pose, je me dis que la question, c'est celle effectivement de l'intérêt qu'on arrive à susciter auprès des lecteurs, des lectrices ou des téléspectateurs, téléspectatrices, etc. Et qu'il ne faudrait pas laisser croire qu'il y a un journalisme sérieux qui décortique, qui explore et qui serait un peu surplombant et qui n'arriverait à toucher qu'une minorité de gens et tout le reste qui ne serait, pas de même noblesse journalistique. Moi, je trouve que s'il y a, alors c'est pas le cas à Mediapart, mais s'il y a un chemin pour, via du divertissement, faire passer de l'information, ouvrir l'esprit des gens, leur apprendre des choses, les inviter à réfléchir à des sujets différemment, c'est une bonne chose.
J'aimerais faire une petite virgule pour aborder aussi les réseaux sociaux. On a commencé à en parler tout à l'heure avec les influenceurs. La résonance que va avoir un média sur les réseaux sociaux dépend de son référencement. Donc ça dépend de plein d'algorithmes dont on n'a pas les chiffres. Mais n'importe quel média, sauf exception, est obligé de jouer le jeu de Twitter. Et même les journalistes sont des personnalités voilà, sur Twitter, etc. De Twitter, Insta, TikTok, Facebook, etc. Et de voir parfois trop simplifier une information pour la propager et avoir du référencement, etc. Comment est-ce qu'on pourrait s'en détacher de ces réseaux sociaux-là? Et en fait, est-ce que ce serait aussi une bonne chose? Est-ce que c'est aussi se couper de...
Alors d'abord, il y a des tas de réseaux sociaux qui ont un impact différent sur l'information.
Et une sociologie différente
aussi. Vous prenez Twitter, par exemple, c'est un outil de communication immédiat, court. La question qu'on peut se poser, c'est qui a besoin de tout savoir dans l'instant et dans le détail? Est-ce que chaque citoyen a besoin de suivre, par exemple, un procès minute par minute sur Twitter? Est-ce que ce qui est fait là n'est pas fait pour un public particulier, très spécifique, très minoritaire? Après, vous avez d'autres réseaux sociaux, je pense à YouTube, par exemple, où vous avez des choses plus longues, plus construites. C'est là où on trouve essentiellement les influenceurs avec d'autres réseaux comme TikTok, etc., qui sont dans une autre logique. Donc je pense pas qu'on puisse réfléchir les réseaux sociaux comme étant
mais YouTube global. En tant que réseau social, c'est en soi c'est un débat parce que on pourrait plus considérer ça comme un hébergeur de vidéos à grande échelle. Je sais pas. C'est...
Twitter,
YouTube. Je parle,
Après sur YouTube, il y a quand même aussi. Je suis assez d'accord sur le principe hein, ou une plateforme, mais sur YouTube, il y a quand même une grosse partie commentaires, donc forcément des échanges qui se font aussi.
Je reviens sur les influenceurs parce qu'ils sont excessivement présents. Il y a des chiffres qui ont été donnés avant-hier soir ici sur l'information des jeunes à travers TikTok et sur la façon dont un certain nombre de croyances sur le complotisme, par exemple, sont à des taux de conviction, si je puis dire, dans la tranche 13-24 ans, effarant. J'ai plus exactement le chiffre en tête, mais je crois que c'était 24% des 13-24 ans qui sont régulièrement sur Twitter, qui pensent que la Terre est plate. Là, il commence à y avoir un vrai problème de responsabilité de ces plateformes et des influenceurs ou des gens qui interviennent sur ces plateformes, parce qu'on laisse se développer, y compris chez des générations jeunes, de personnes qui sont très ouvertes, qui manquent peut-être de recul et de formation, on laisse se développer des croyances excessivement dangereuses.
Et on en revient à la Guyane, hein, finalement.
Oui, mais la Terre est plate.
On va maintenant écouter un deuxième extrait de l'interview réalisée par Lou et Marie avec Milly Servant, qui est donc, je rappelle, rédactrice en chef de Climax.
Alors, Climax, c'est un média qui a été créé en 2021 sous forme de newsletter, qui est depuis juillet 2022 devenu un fanzine papier, donc un trimestriel papier de 116 pages sans pub. Et notre sujet de prédilection, c'est l'écologie. Mais on parle d'écologie pas comme tout le monde. On essaye d'apporter un contre-pied, finalement, à l'approche, aux approches traditionnelles qui sont faites de ce sujet-là. On essaie d'en parler sans avoir forcément de courbe du réchauffement climatique, sans éco-anxiété, sans couleur verte, avec justement un traitement complètement pop, assez humoristique, décalé et quand même sérieux dans le fond, bien sûr.
Et comment on peut toucher le public en fait avec des informations justement qui ne sont pas forcément brutes et trash, on peut dire comment ça fonctionne?
Alors on a coutume de dire que... En fait, l'information brute et scientifique est là, et qu'en fait, Climax est un enrobage. C'est un peu comme, je prenais l'exemple d'un gâteau. Climax serait la ganache assez dense. L'écologie, pardon, serait la ganache assez dense et parfois un peu très bonne, mais un peu indigeste, qu'on aimerait tous justement intégrer pour mieux connaître le monde dans lequel on vit. Et Climax va être l'enrobage qui va venir autour de cette ganache et la rendre digeste. Ça va être simplement ça. En fait, on ne transforme pas l'information, juste on l'enrobe d'un traitement à la fois graphique et éditorial qui est joyeux en fait. Et notamment on utilise beaucoup le sarcasme et l'humour et la moquerie. Et en fait ce qu'on essaie de procurer chez nos lecteurs en faisant ça, c'est qu'on va pouvoir avoir on pourrait avoir deux traitements de la même, du même sujet. Par exemple, si on parle de telle entreprise qui fait du greenwashing et qui ment à tous ses consommateurs et qui du coup les arnaque et fait des pratiques détestables, on peut en faire un article complètement à charge, un peu déprimant, assez anxiogène, qui alerte en fait de la situation. Ou on peut faire comme Climax, c'est-à-dire se moquer d'eux, en fait, les tourner en dérision, utiliser des sobriquets assez ridicules pour parler de leurs pratiques. On a quand même le fond qui reste là, les faits scientifiques sont là, enfin les faits tangibles et l'enquête journalistique est là. Mais en fait, rien qu'avec le choix de nos mots et le choix de nos tournures et de notre angle et de notre ton et aussi du traitement graphique, on va vraiment pouvoir les tourner en dérision. Et en fait, le lecteur, il est plus en dessous de cette actualité qui lui arrive, mais il est au-dessus.
Et pourquoi cette volonté vraiment de s'éloigner de ces informations, comme par exemple, on en parlait tout à l'heure, L214 peut faire montrer vraiment les choses violentes. Pourquoi cette volonté de s'en écarter, justement?
Alors déjà, il y a beaucoup de médias, enfin, il n'y a jamais assez de médias sur l'écologie, mais il y a de plus en plus de médias